Voyons maintenant les composantes de la foi en l'Église contenues dans le credo. Je tiens à souligner que dans la mesure où la foi nous est directement prescrite par l'Église, elle est non seulement la certitude au sujet de ce qui est invisible, mais aussi nécessairement l'accomplissement de ce qui est attendu. Je n'entends pas par foi une conviction philosophique, mais une réalité spirituelle, synergique. Quand l'homme croit correctement et vit selon sa foi, il reçoit nécessairement dans son cœur, l'apercevant par ses sens spirituels, et traduit dans sa vie extérieure la grâce accordée par Dieu, cette grâce de la foi qui est infiniment plus réelle que le monde physique. Car le monde et l'Église, écrit le père Alexandre dans son journal, ne sont pas deux réalités distinctes dont l'une préserve ou sauvegarde l'autre. Non, la foi est la possession du royaume, l'accomplissement du royaume attendu et la certitude du royaume invisible. L'Église comme mystère, comme unité, comme vie nouvelle, etc., est précisément la possession du royaume. Elle est présence de ce qu'on attend et de ce qui est invisible. Examinons donc les quatre définitions comprises dans le credo. L'Église est une. Cela signifie en premier lieu l'unité de la foi. Toujours et en tout lieu, l'Église contient un enseignement dogmatique inaltérable, l'unité de tout l'enseignement moral et l'unité de l'expérience spirituelle, l'unité de l'organisation de la vie ecclésiale dans les cadres canoniques et liturgiques. Mais le plus important, ce qui constitue le noyau de la foi en l'unité de l'Église, est l'unité dans Dieu le Père, le Christ et l'Esprit Saint, l'unité avec les saints, c'est-à-dire l'unité de l'Église céleste et de l'Église terrestre comme corps du Christ selon les figures évangéliques, des noces et de l'épouse de l'agneau, l'unité du nouvel Israël. Quelles sont les manifestations pratiques de cette foi? Le sentiment d'appartenir à l'unité du corps du Christ avec tous les chrétiens, la manifestation du royaume de Dieu dans la réalité de la vie, et comme conséquence, la communion de prière avec les défunts et une attitude morale active envers les habitants de la terre. 2. La sainteté de l'Église. C'est le point central de cette discussion. Nous croyons en premier que l'Église est sainte du fait de celui qui en est la tête, le Seigneur Jésus-Christ, et de l'Esprit Saint qui vit en elle. L'Église est sainte à cause de son unité avec l'Église céleste. Elle est sainte à cause de son but, de sa vocation et de sa destination. Elle est sainte dans la mesure où elle est source de sanctification. Mais la foi dans la sainteté de l'Église doit nécessairement conduire en pratique à la sainteté de notre existence quotidienne. Il est du devoir absolu des chrétiens que le trésor de leur foi, même s'il est imparfait, même s'il est fragile, se manifeste dans la vie, agisse par l'amour, Galates 5-6, et soit visible aux hommes. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Selon les mots de Saint-Simon, le nouveau théologien, celui qui croit en Christ montre devant tout le monde qu'il est chrétien. Les paroles suivantes de l'apôtre Jacques concernent directement la réalité ecclésiale. Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Nous ne sommes pas appelés seulement à la foi en la sainteté, mais à la réalisation de celle-ci. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Cependant, la pratique orthodoxe actuelle rejette résolument l'idée de la sainteté comme norme de la vie chrétienne, mettant plutôt l'accent sur la contemplation des péchés, privant ainsi la foi en la sainteté de l'Église de son composant pratique et synergétique. La sainteté déserte la vie quotidienne pour se réfugier dans la sphère de la métaphysique, ce qui entraîne de graves conséquences. En premier lieu, la place de la sainteté est prise par les éléments de ce monde qui remplissent la vie de l'Église. La seconde conséquence est que s'impose alors la doctrine de l'Église invisible, que nous condamnons chez les protestants, même si les protestants la confessent dans un tout autre contexte. Je veux dire par là qu'en pratique, l'Église visible ne se distingue en rien de la société, tandis que les définitions théologiques concernant l'unité, la sainteté, la catholicité, etc., se rapportent à une Église que personne ne peut voir. Il en découle que les orthodoxes qui constituent l'Église n'y participent en réalité que très peu, car la vie ecclésiale proprement dite, c'est-à-dire la plénitude de la vie en Christ, n'est en rien réalisée dans la pratique. Avec cela, nous justifions pleinement cette situation sous prétexte que nous sommes des pécheurs, tandis que l'Église est sainte par elle-même, sans nous, en vertu de la foi, ce qui entraîne des aberrations morales et un déséquilibre. Nous réfugions derrière cette doctrine commode selon laquelle l'Église est de toute façon sainte indépendamment de nos péchés, nous rendons inopérante l'énergie morale et employons nos forces vitales à nous installer confortablement en ce monde, ce qui explique que nous ne nous distinguons en rien de la société. Pour reprendre les mots du père Alexandre Schmemann, ce qui est au cœur de l'Église, c'est la relation, Satnisionnest, du monde terrestre avec le royaume de Dieu venu en force. Cette relation n'est pas seulement l'effet d'une action divine, même si elle est surtout cela, mais également notre vie selon l'Évangile. C'est cela la synergie, fruit de la foi. Une foi en la sainteté abstraite et qui n'est pas confortée par le témoignage de la vie. La croyance en la sainteté, sans l'effort de la sainteté, détruit cette relation et transforme l'orthodoxie en une forme de protestantisme, avec sa doctrine du salut par la foi seule, que nous condamnons à juste titre. Nous sommes confrontés ici à un grave problème pastoral, le plus important à mon avis, de la réalité orthodoxe actuelle. 3. L'Église est catholique, c'est-à-dire universelle, commune à tous, ce que la langue slave traduit par le terme « saborna ». Selon la formule du catéchisme chrétien étendu du métropolite Philarète de Moscou, elle ne se limite à aucun lieu, moment, nation, mais comprend tous ceux qui confessent la vraie foi en tout lieu, dans tous les temps et de toutes les nations. En d'autres termes, nous croyons à l'unité de l'Église dans le temps. Elle reste la même à travers l'histoire et en font partie les hommes de tous les âges. À son unité dans l'espace, l'Église est une sur tous les points du globe, même s'il existe des différences extérieures. Et enfin, à son caractère supranational, ce qui est très actuel aujourd'hui, l'Église est la même pour tous, indépendamment des distinctions de race, de nationalité, de statut social, de fortune, etc. Si on examine la catholicité dans son aspect authentiquement synergétique, le point le plus important est la prise de conscience que l'Église est au-dessus de la personne. Mais cette suprapersonnalité n'est possible que dans le Christ et dans lui seul. Elle n'amoindrit en rien la personne, mais au contraire la parachève. La difficulté, écrit le père Schmemann, et en vérité le caractère unique du christianisme, tient à ce qu'il est tourné vers la personne, mais qu'il fait don à celle-ci de l'Église, comme accomplissement de la personne. La personne qui rejette l'Église déforme le christianisme, le transforme en narcissisme et en égoïsme spirituel. L'Église, rejetant la personne, déforme le christianisme en l'abaissant au niveau de la foule, d'une religion de masse. Dans une telle Église, la personne est remplacée par un pieux stéréotype, le pratiquant, et ne voit plus dans l'Église, au mieux, qu'une dispensatrice de nourriture spirituelle. Le mystère du christianisme consiste à tenir conseil avec tous en son fort intérieur, « Vnutrisibas sabor safsem edirjats », mais en son fort intérieur précisément, et n'est pas dans une forme de collectivisme religieux. Ainsi donc, la notion de catholicité soulève-t-elle des questions sur le plan pastoral et mérite d'être davantage explicitée dans sa dimension ecclésiologique. 4. L'Église est apostolique. L'Église n'est Église que dans la mesure où elle se rattache aux apôtres. Cela suppose en premier lieu la succession apostolique, dans le mystère du sacerdoce et d'une manière générale la sanction apostolique donnée aux successeurs des apôtres dans la célébration des mystères. En second lieu, tout dans l'Église doit se rapporter à l'autorité des apôtres. Toute question dans l'Église, qu'elle soit d'ordre dogmatique, moral, canonique ou liturgique, doit être vérifiée à la lumière de l'enseignement et des institutions apostoliques. De là découle, et je voudrais à nouveau le souligner, la signification de l'Écriture sainte pour la vie spirituelle. La tradition chrétienne authentique ne se trouve que dans le cadre de l'apostolicité. Beaucoup voient l'Église comme l'Église des pères ou de la mère de Dieu, comme mystico-thaumaturgique ou encore comme étatique ou que sais-je. Mais elle est apostolique et rien d'autre. Pratiquement, l'apostolicité est avant tout la hiérarchie des chrétiennes des valeurs. Par exemple, du point de vue apostolique, l'Eucharistie est la communion du corps du Christ, la communion au corps du Christ et le dévoilement du royaume de Dieu ici et maintenant. Alors que, dans la pratique ecclésiale, elle est souvent un exercice ascétique de sanctification personnelle. La principale condition de l'Eucharistie est une vie selon l'éthique évangélique. Dans la pratique ecclésiale actuelle, c'est le respect des règles de préparation. L'apostolicité de l'Église est insuffisamment prise en compte aujourd'hui, tant en théorie qu'en pratique, et il s'agit aussi d'un problème pastoral très aigu. Conclusion. Chaque arbre se connaît à son fruit. Le résultat de la foi en l'Église est l'entrée du royaume de Dieu en Christ dans notre vie quotidienne, quand la réalité du corps du Christ devient un fait de notre vie personnelle et communautaire. Si cela ne se produit pas, c'est que quelque chose ne fonctionne pas comme il faut dans notre foi. Elle cesse d'être orthodoxe dans le sens exact de ce mot et se transforme en idéologie, cessant de porter des fruits et laissant l'Église sans défense devant les éléments de ce monde. La relation entre la vie ecclésiale avec le Christ et son royaume est alors rompue. La tragédie du christianisme n'est pas que le Christ prêchait le royaume de Dieu et qu'est venue l'Église. Non, parce que l'Église est venue afin d'annoncer et de manifester le royaume de Dieu jusqu'à ce qu'il vienne. Il s'agit d'une citation du père Alexandre. La tragédie du christianisme est que l'Église est devenue une fin en soi, qu'elle a cessé d'être la manifestation du royaume de Dieu, qu'elle s'en est coupée, et que sa sacralité a cessé d'être eschatologique. On discute de prise, de branchement, de fil, mais on oublie la lumière pour laquelle seulement tout cela existe. L'Église cache et le remplace le Christ, elle devient une entité spirituelle autonome qui exige qu'on la sert au lieu qu'on serve le Christ. C'est ce qu'on voit le plus souvent, hélas, dans la réalité ecclésiale d'aujourd'hui. En Russie, la majorité de la population se déclare orthodoxe, mais on ne peut dire qu'il s'agit de chrétiens, puisque la vie chrétienne, dans ses dimensions spirituelles et éthiques, leur est inconnue et parfois indésirable. Beaucoup d'orthodoxes restent éloignés non seulement de l'idéal ascétique dont parlait Saint Macaire le Grand, Saint Simon le Nouveau Théologien, Saint Séraphin de Sarov, Saint Théophane le Reclus, que j'ai cité dans la première partie de mon exposé, et beaucoup d'autres saints de l'orthodoxie, mais aussi de leur paradigme de perception de l'Église, de cette foi en l'Église qui porte le vrai fruit de la communion avec Dieu et qu'a manifesté de manière si éclatante au XXe siècle le père Alexandre Schmemann. Les causes de cette incompréhension de l'ecclésialité authentique tiennent, selon moi, à ce que la pédagogie ecclésiale ne montre pas la vraie foi en l'Église. Et cela provient à son tour de ce que la foi en l'Église demande à être l'objet d'une réflexion à la fois théologique et pratique de la part de l'ensemble de l'Église. C'est une tentative de cet ordre, sous forme de questions plutôt que des réponses toutes faites, que j'ai proposée à votre attention aujourd'hui.